pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'est ouverte ce lundi 9 juin 2025 à Nice. C'est le plus grand rassemblement international jamais dédié à la protection du milieu marin. Après une première édition à New York en 2017 et une seconde à Lisbonne en 2022, cette troisième conférence se terminera le vendredi 13 juin 2025. Qu'en attendre ? Son objectif, c'est de faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14, détaille Gauthier Carl, directeur adjoint de la plateforme Océan et Climat. C'est extrait de l'article du site Reporter du 9 juin 2025. Adopté en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies, ce fameux objectif 14 vise à gérer durablement et mieux protéger les activités humaines, les écosystèmes marins. Et pour ce faire, il définit plusieurs cibles à atteindre. Prévenir la pollution marine et les déchets en mer, réduire l'acidification des océans et mettre un terme à la pêche illégale. Parmi les 17 objectifs de ce développement durable établis par les Nations Unies, l'objectif 14 est l'un des plus sous-financés, regrette Gauthier Carl. Ces cibles sont par ailleurs loin d'être atteintes. Seuls 8,4% des océans sont aujourd'hui protégés, alors que les Nations Unies projetaient d'atteindre 10% en 2020 et espèrent parvenir à 30% d'ici à 2030. Au total, 2,7% des océans sont fermés aux activités industrielles, le seul niveau de protection qui permette, selon les scientifiques, d'obtenir des résultats tangibles pour la vie marine. Donc c'est un extrait de l'article du site Reporter du 9 juin 2025. Et aujourd'hui dans cette émission, nous allons revenir sur la question de la préservation des océans. Pour cela, nous entendrons à la suite un son du site Blast du 18 février 2022 intitulé « L'océan est en danger et s'il meurt, nous mourrons ». Nous poursuivrons avec l'intervention d'Aurore Stéphan qui démontrera l'impossibilité de l'exploitation sous-marine des métaux. Et nous terminons par cette question, comment la surpêche industrielle tue l'environnement et la pêche artisanale. Bonne écoute.
C'est un objet de fascination. De peur aussi parfois depuis la nuit des temps. J'aimerais vous parler ici de l'océan. On ne le réalise pas toujours, mais nous avons une relation très intime avec l'océan. Et notre survie lui appartient. Notre oxygène, notre climat et une grande partie de notre alimentation dépendent de l'océan. Si l'océan meurt, nous mourrons. Alerte Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd depuis des années.
The real problem though is apathy. It's all out of sight. It's all out of mind, and people don't even think about it.
Ce qui se passe dans l'océan affecte toutes les formes de vie sur la planète. Et pourtant, nous connaissons mieux la surface de la Lune ou de Mars que les abysses de l'océan. Alors que le dérèglement climatique s'accélère, il devient urgent de mieux le comprendre et de dévoiler ses secrets.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre.
Malheureusement, la vie sous l'océan a déjà beaucoup changé depuis La Petite Sirène. Et elle n'est plus si belle. Durant les 50 dernières années, l'océan a subi plus de destruction que durant toute son histoire. Acidification, pollution plastique, surpêche. Nous savons aujourd'hui que l'océan est en danger, mais il faut le reconnaître. On ne comprend pas toujours exactement pourquoi. Quelle est la nature exacte des pressions qui pèsent sur celui-ci? Et surtout, comment le préserver? Alors que cette année 2022 est une année charnière pour la préservation de l'océan avec de nombreux rendez-vous importants et que le One Planet Summit s'est achevé le 11 février, retour sur les grandes menaces qui pèsent sur l'océan et les décisions politiques à prendre face à elles. Pour commencer, il faut bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que l'océan ? C'est tout simplement l'écosystème le plus vaste et le plus important de notre planète. Il couvre les deux tiers de la surface du globe et représente 97% de la réserve totale d'eau sur Terre. Petit rappel des cours de géographie. Il y a 5 océans. Atlantique, Pacifique, Indien, Antarctique, Arctique. Et ils communiquent tous entre eux. Ils font partie d'une masse d'eau unique. Et c'est pour cela que l'on parle de l'océan et non des océans. Cet océan nous entoure littéralement. Plus d'un quart de la population mondiale habite à moins de 100 km du littoral. Et une immense partie vit près des lacs, des rivières ou des marécages qui mènent tous à l'océan. On pourrait donc dire que chaque personne sur la planète influe, sans le savoir, sur la santé de l'océan. Et si vous vous souvenez bien de vos cours de SVT sur le cycle de l'eau, vous savez également que l'océan fournit l'eau nécessaire au développement et au maintien de la vie terrestre. L'océan est aussi une ressource alimentaire, puisque le poisson est la principale source de protéines animales pour 3 milliards de personnes sur la planète. On pourrait également rappeler que l'océan est une source d'énergie renouvelable, qu'il a des effets bénéfiques pour la santé et le bien-être, qu'il contribue aux valeurs culturelles, au tourisme, au commerce et au transport. Bref, l'océan nous rend une quantité incroyable de services essentiels. Et le plus important de tous, il est au cœur de la machine climatique planétaire. Il régule notre climat en absorbant le CO2 présent dans l'atmosphère, mais aussi en redistribuant la chaleur et le dioxyde de carbone. Pour faire simple, l'océan est le principal poumon de la planète. Il absorbe plus de 25% des émissions de CO2 émises chaque année et il est responsable d'environ 50% de l'oxygène produit sur la planète. L'océan fournit une respiration sur deux. D'autre part, l'océan bouge en permanence. À travers les courants marins, il stocke et redistribue d'énormes quantités de chaleur. C'est grâce à l'océan que le climat de notre planète reste relativement doux, même si ça commence à beaucoup changer. Il absorbe plus de 90% de la chaleur émise par les gaz à effet de serre. Bref, l'océan contribue à limiter le réchauffement climatique global. Et le problème, depuis plusieurs décennies, c'est que la capacité de l'océan à réguler le climat est de plus en plus altérée par les conséquences des activités économiques et industrielles. Les émissions de CO2, la surexploitation des ressources et les pollutions ont ravagé les écosystèmes marins. Pour vous donner quelques informations, le rythme de réchauffement de l'océan a plus que doublé depuis 1993. L'absorption d'une plus grande quantité de CO2 a entraîné une augmentation de l'acidification des eaux superficielles de l'océan. Pour résumer, un cercle vicieux s'est enclenché. Plus le climat se réchauffe, plus l'océan se réchauffe et s'abîme. Moins il absorbe de CO2, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, et plus le climat se réchauffe, et ainsi de suite. Au-delà de tous ces problèmes, déjà importants, il y a évidemment l'élévation du niveau des mers, conséquence de la fonte des glaciers, mais aussi de la dilatation de l'océan sous l'effet de l'augmentation de sa température. Aussi, plus la température de l'océan est élevée, plus son évaporation augmente et entraîne des phénomènes climatiques exceptionnels. Par exemple, les tornades et cyclones sont de plus en plus fréquents et ils affectent surtout les régions côtières. Au total, plus d'un quart des habitants de la planète est directement menacé par les conséquences du changement climatique sur l'océan et la cryosphère. Les zones côtières abritent 28% de la population mondiale, dont 11% vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus l'océan se réchauffe, plus la biodiversité évolue aussi en conséquence. Migration d'espèces, disparition des coraux, désoxygénation. L'acidification de l'océan fragilise et bouleverse les écosystèmes, comme par exemple la capacité des organismes vivants, plantes et animaux, à fabriquer leurs squelettes et coquilles. À ce sujet, une information capitale est sortie récemment sans provoquer beaucoup d'émotions. Et pourtant, elle est gravissime. Selon une étude publiée le 1er février 2022, les coraux dans le monde entier sont probablement condamnés quoi qu'il arrive. Des scientifiques ont démontré qu'avec une hausse de la température moyenne de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, plus de 99% des coraux seraient incapables de se remettre des vagues de chaleur marine de plus en plus fréquentes. Et avec un réchauffement de plus de 2 degrés, leur mortalité serait de 100%. Or, le dernier rapport du GIEC est clair. Si nous continuons sur la trajectoire actuelle, le seuil des 1,5 degrés pourrait être franchi dès 2030. En raison du réchauffement climatique et de la pollution, déjà 14% des coraux ont disparu entre 2009 et 2018. Bientôt, les fonds marins multicolores et un peu magiques pourraient ressembler à ça, des cimetières de squelettes blanchis. Enfin, je ne peux vous parler des menaces qui pèsent sur l'océan sans mentionner la pollution plastique. Selon le dernier rapport World Wide Fund, cette pollution a atteint toutes les parties des océans, de la surface aux grands fonds marins, des pôles aux côtes des îles les plus isolées. Non seulement ces plastiques se retrouvent dans les estomacs de tous les animaux marins, des poissons aux oiseaux de mer, mais ils deviennent aussi, au fur et à mesure, invisibles, pour devenir des nanoplastiques, impossibles à récupérer. Et donc, même si du jour au lendemain, il n'y avait plus aucun plastique déversé dans l'océan, le nombre des microplastiques devrait quand même doubler d'ici à 2050. Et selon les estimations, la production de plastique dans le monde devrait aussi doubler d'ici à 2040. Petit rappel, les plastiques à usage unique représentent plus de 60% de la pollution marine.
C'est une pollution qui va rester des décennies, voire des siècles dans la mer. Et donc, en fait, c'est une pollution qui n'arrête pas d'augmenter.
Je ne rentrerai pas ici dans le détail des impacts de la surpêche, de la pêche illicite, de la pêche en eau profonde, de la pollution chimique, etc. Mais je pense que vous avez à peu près compris le tableau. Et j'imagine qu'à ce stade, vous êtes complètement déprimé. Ah, j'aimerais tant vous dire que toutes ces informations ont créé un électrochoc chez les chefs d'État et les entreprises les plus polluantes, que le problème est pris en charge, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais malheureusement, on n'y est pas encore vraiment.
L'océan est la star environnementale de 2022. Cette année, il y aura au moins 6 grands rendez-vous. Le premier, le One Ocean Summit, organisé par la France. Il s'est achevé tout à l'heure à Brest.
Si jusqu'alors, l'océan a surtout été le parent pauvre des négociations climatiques et internationales, l'année 2022 pourrait quand même marquer un tournant, avec de nombreux grands rendez-vous très attendus, notamment par les ONG. En réalité, il y a eu jusqu'alors beaucoup de discussions techniques sur ce sujet, mais peu de décisions politiques. Cette année pourrait concrétiser les choses. Elle a commencé avec le One Ocean Summit du 9 au 11 février à Brest, un sommet organisé par la France qui possède, rappelons-le, le deuxième plus grand espace maritime mondial. Le One Ocean Summit, qui a été vendu comme un sommet pour mobiliser la communauté internationale et agir concrètement à réduire les pressions sur l'océan, a plutôt été une sorte de rampe de lancement. À l'issue des 2 jours, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mieux protéger l'océan, avec des absences notables comme la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie ou encore l'Australie. L'enjeu est désormais d'enclencher des accords internationaux dans les prochains mois. Le sommet a rassemblé 41 États, des représentants de la société civile, des experts et des grandes entreprises. En résumé, il y a eu beaucoup de beaux discours, mais peu de déclarations concrètes. Dans les grandes lignes, 41 États, dont ceux de l'Union européenne, s'engagent à défendre au cours des prochains rendez-vous internationaux un traité de protection de la haute mer. C'est un accord opérationnel et mondial sur l'utilisation durable de la haute mer et la protection de sa biodiversité. 11 armateurs européens vont rejoindre le label Green Marine Europe, portant le nombre total à 22. Ils s'engagent à limiter les différentes pollutions qu'ils provoquent, comme les émissions de gaz à effet de serre, l'huile, le bruit. Tout sera fait pour verdir le trafic maritime et bâtir des navires zéro émission, ont déclaré plusieurs multinationales. Déclaratif, comme je vous le disais. Sur la pollution plastique, 2 milliards d'euros supplémentaires ont été attribués par les banques européennes d'investissement pour financer des projets luttant contre cette pollution. Mais rien de très concret pour prendre le problème à sa source, la production de plastique. La France a néanmoins annoncé avec la loi anti-gaspillage qu'elle était en voie de supprimer les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Avec l'Inde, elle a engagé une initiative à visée multilatérale sur l'élimination de la pollution due au plastique à usage unique. Au niveau de la biodiversité, une trentaine d'États supplémentaires, donc 84 pays au total, ont rejoint les objectifs de 30% d'aires marines protégées dans l'océan d'ici à 2030. Un tiers devrait comprendre une protection forte. La France, de son côté, atteint désormais les 30% de terres et mers protégées. Mais pour des ONG comme Sea Shepherd ou Greenpeace, ce n'est pas assez. Elle considère que les niveaux de protection ne sont pas suffisants. D'autant plus que seuls environ 2% des eaux françaises sont sous protection forte. Et en réalité, seuls les niveaux de protection forte et totale sont les plus efficaces pour préserver la biodiversité. Le sujet des aires marines protégées est un enjeu crucial de la protection de l'océan. La question qui se pose désormais est celle des outils de surveillance. Déclarer des aires protégées, c'est possible. Mais il manque des moyens de mise en œuvre. Pour les scientifiques, comme Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, il faudrait faire de tout l'océan une zone à protéger et autoriser l'exploitation seulement dans quelques espaces. Surtout, le statut d'aire marine protégée n'empêche pas des méthodes de pêche destructrices, comme la pêche au chalut de fond, par exemple, et il ne protège pas de l'exploitation minière. Le grand sujet polémique soulevé en marge de ce sommet. Tout au long des trois jours de sommet, plusieurs actions et manifestations ont tenté de s'opposer aux logiques dénoncées comme capitalistes du One Ocean Summit. Beaucoup ont alerté sur l'exploration minière vendue par Emmanuel Macron. Lors de sa présentation sur la France 2030, le président avait parlé de grandes odyssées d'exploration et d'aventures à la fois humaines, intellectuelles et de recherche.
Mais qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu la plus complète une part si importante du globe ? Et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares, de compréhension de du fonctionnement de nouveaux écosystèmes, d'innovation en termes de santé, en termes de biomimétisme, etc., etc.
Emmanuel Macron dit vouloir explorer les océans, mais convoite aussi ses ressources. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais l'océan profond recèle de réserves minérales, comme le zinc, le cuivre ou encore l'or et l'argent. Lors du One Ocean Summit, Annick Girardin, ministre de la Mer, a réaffirmé l'ambition de la France dans l'exploration et l'exploitation minière des fonds marins. La France est d'ailleurs en train d'élaborer des ordonnances qui abrogeront la seule disposition du code minier français qui interdisait jusqu'ici d'exploiter les fonds marins français. Pour bien comprendre ce que cela signifie, on parle ici d'aller explorer et exploiter l'océan profond, les abysses, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 200 mètres de profondeur, parfois à plus de 6000 mètres. Des habitats encore méconnus, éloignés de tout son et lumière, au développement très lent. Certains coraux sont vieux de plus de 5000 ans. Et malheureusement, la France n'est pas le seul pays à vouloir les exploiter. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur l'impact qu'auraient ces exploitations. Mais pour les scientifiques, elles pourraient mener à tuer des écosystèmes essentiels, des écosystèmes que nous ne connaissons pas. Et ceci pourrait aussi déstabiliser les abysses. Tout ça pour aller chercher des matériaux rares. On n'arrête pas le progrès. Le seul endroit de la planète à ne pas avoir été exploité par les humains risque bientôt de l'être, pour aller récupérer des métaux stratégiques, comme le cobalt, le cuivre ou le nickel, au cœur d'écosystèmes marins exceptionnels et vulnérables. Une folie qui n'est pas sans rappeler le film « Don't Look Up ».
This comet contains $30 trillion worth of material.
What do trillions of dollars matter if we're all gonna die?
Oh no, what if we're rich? That would be terrible.
De nombreux scientifiques et ONG réclament, au nom du principe de précaution, un moratoire sur l'extraction minière en eau profonde. Déjà demandé en septembre 2021 par les Congrès mondial sur la nature de l'UICN. Un vote au cours duquel la France s'était abstenue. Malgré le travail des activistes pour alerter, Emmanuel Macron n'a pas changé d'avis. Bloom, l'association de protection des océans, a décidé de boycotter le sommet, décrit comme un flop diplomatique. Pour s'en expliquer, Claire Nouvian, sa présidente, a publié une lettre ouverte qui dénonce l'hypocrisie du sommet et d'Emmanuel Macron.
Alors pourquoi avez-vous boycotté ?
Mais parce que ça sert à rien.
Ce sommet ne sert à rien.
Tandis que vous nous assommez de fausses consultations, de fausses annonces, de fausses postures, de faux sommets, le monde se meurt et devient inhabitable. Les machines continuent de ravager la Terre, la mer et les conditions de survie de l'humanité. À cause de vous, nous venons de perdre 5 précieuses années, celles qui comptaient au centuple, celles sur lesquelles reposait notre destin commun. Dans son bilan du sommet, l'ONG s'indigne notamment du fait que le One Ocean Summit n'a vu aucune annonce concrète sur la pêche industrielle, une des premières causes de destruction de l'océan, ou encore la surpêche. Pourtant, une semaine plus tôt, Sea Shepherd révélait ces images, qui ont fait le tour des chaînes d'information et des réseaux sociaux. Ce qui paraît ici être de l'écume est en réalité un gigantesque banc de merlan bleu mort. Plus de 100 000 poissons ont été rejetés à la mer à 300 km de La Rochelle. Le responsable est le Margiris, un bateau-usine de 142 mètres capable de traiter 250 à 600 tonnes de poissons par jour. C'est le deuxième plus grand chalutier au monde qui a rejeté illégalement ces poissons en pleine mer.
Savoir que pour ces gros navires, ça coûte du temps, de l'argent, du carburant, d'aller débarquer des poissons qui ne les intéressent pas au port. Et donc, la tentation est grande de les relâcher en mer, même si c'est complètement illégal.
Le navire a déclaré un incident de pêche. Sea Shepherd a déposé plainte le 8 février, à la veille du One Ocean Summit. L'ONG a dénoncé, aux côtés d'autres organisations comme Greenpeace, le blue washing du sommet. Pour beaucoup, il est passé à côté du sujet. Il ne reste désormais qu'à espérer que les prochains rendez-vous seront plus concluants. Prochaine grande étape, la conférence sur les océans organisée par les Nations Unies à Lisbonne en juin 2022.
Ils vendent les coquillages de bord de mer, comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent le sable fin, les algues, et ils conviennent, pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent aux plus offrants, mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les hymens de jeunes vierges sur la planète, et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes.
Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète.
Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles. Aux pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles.
Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies. Ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères. Préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire.
Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain. Au public des cités à qui ils ont lié les mains.
Ils vendent la peau de l'homme et bien avant de l'avoir tué. L'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux.
Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent.
Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend du nos vieux jours des mouroirs comme dernière demeure. L'universel. Les clergés revanchards sont toujours une bonne clientèle. Ils ont vendu la signification du mot public. Celui qui s'oppose aux lois de l'argent est archaïque.
Ils vendent aux oreilles innocentes que des chansons sans âme. Pourvu qu'elles soient divertissantes, ils endorment le quidam. Ils vendent au grattage, au tirage, à la française des bœufs. On se gratte, ils nous tirent, jamais d'affaires, c'est pas du jeu.
Ils vendent aux yeux bleus des mineurs, des poussières sans charbon. Ils percent au fond des cœurs, une existence sans fond.
Ils vendent aux sans-papiers des grillages, sans les griots. Les marchands de barbelés déménagent tous les idéaux.
Ils vendent le devenir des grands primates en liberté. Des forêts séculaires, y a plus d'endroits où se cacher.
Ils vendent des armes
à des cul-de-chattes fanatisés.
Ils vendent des larmes
à des orphelins entiers.
Ils vendent aux élites corrompues le pouvoir d'informer. Des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées. Ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains. Les chiens de garde de la pensée unique à bois pour rien.
Ils vendent des étiquettes cousues à même la peau des gens. Leurs marques sont des tatouages que l'on refuse aux indigents. Ils vendent à nos consciences un nouveau vocabulaire. Ne disent plus indigènes, mais parlent de main-d'œuvre moins chère.
Ils vendent des rallyes arrogants, font le pari du Dakar. À chaque édition, des enfants écrasés par un char. Ils vendent leurs sommets capitaux en face des bidonvilles.
C'est chic.
Transforment une capitale le temps d'un enjeu olympique. Ils vendent.
Ils crient soldons, cédons.
Qu'importe les périodes, ils ont même vendu les saisons.
Ont vendu les organismes, les cellules et les planctons. Ils ont même vendu les saisons.
Vendu les saisons.
Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes. Nous poursuivons cette émission aujourd'hui sur la question « Quel avenir pour les océans ?» et nous passons au deuxième sujet de cette émission et c'est l'intervention d'Aurore Stéphan qui nous parle de l'impossibilité de l'exploitation sous-marine des métaux.
Effectivement, il y a ce grand plan qui est basé, alors on parle beaucoup des nodules, il y a trois types de gisements, les sulfures hydrothermaux, qui sont schématiquement liés à des phénomènes de volcanisme sous-marin.
C'est des petites cheminées, c'est ça ?
C'est des évents, voilà, c'est des évents volcaniques, ça se fait des petites cheminées, et puis vous avez en fait donc de l'eau qui circule dans la croûte océanique, ça remonte, ça se charge en métaux, ça remonte, en sortant du coup ça précipite, alors le gros du panache hein, va être dispersé dans les eaux de mer, et puis il y a une partie qui va se redéposer sous forme de cheminée, tout à fait. Ça c'est les sulfures hydrothermaux. Vous avez les nodules que vous avez évoqués, donc là cette fois-ci on est dans des plaines abyssales très profondes, plusieurs milliers de mètres de profondeur, c'est plusieurs milliers de mètres aussi de profondeur hein, pour les sulfures hydrothermaux. Et là, cette fois-ci, en fait, on est dans des zones où il y a très peu de sédimentation. Et donc, effectivement, vous aviez évoqué la dent de requin la dernière fois. En fait, effectivement, vous allez avoir ce qu'on appelle un nucléus. Et alors là, c'est un phénomène qui est d'une finesse, la géologie. Mais c'est incroyable, la géologie. En fait, c'est, la formation des nodules, c'est un phénomène extraordinaire. Je vais vous le raconter, vous allez croire que je vous mens tellement, c'est incroyable. On est d'accord, vous êtes très en profondeur sur une plaine abyssale, donc vous avez de la vase et du sable et l'eau de mer, d'accord ? Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez avoir des phénomènes de concrétion d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse. Tout fin, tout fin, tout fin. Tout fin, quand je dis tout fin, c'est nanométrique. Donc nanométrique, c'est un millionième de millimètre. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, c'est des tout petits grains d'oxyde de fer qui vont effectivement s'agréger les uns les autres. Et en fait, ces petits oxydes en fait vont aspirer les métaux de l'eau de mer et de l'eau qui se trouve dans les sédiments du dessous, ce qu'on appelle l'eau de porosité. En fait, la vase et les sédiments, il y a de l'eau à l'intérieur, ce qu'on appelle l'eau de porosité. Et en fait, du coup, ça va aspirer ça. Et donc, le métal va être absorbé ou incorporé sur le petit oxyde de fer ou oxyde de manganèse. Alors, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire merveilleuse, c'est que ça va avoir des sacrées implications derrière. Et donc, les encroûtements, troisième type de gisement, donc nodule 1 à 12 cm, mise en place de ces petits phénomènes de concrétion, temps moyen, c'est quelques dizaines à quelques centaines de millimètres concrétionnés par million d'années.
Ah bah. C'est bien ça.
C'est bien. Voilà. Donc c'est pas tous les 4 matins qu'on va refaire des nodules. Et ensuite vous avez les encroûtements. C'est le même principe que les nodules. Sauf que là on n'est pas sur une petite boule. En fait on va se placer sur des fonds sous-marins, donc des zones de relief, des volcans, des choses comme ça, des reliefs. Et en fait on va mettre en place une croûte similaire sur en fait les fonds marins. Donc c'est ce qu'on appelle les encroûtements. C'est la même composition globalement que c'est la même composition que les nodules.
Mais comment on fait pour évaluer la densité de quelle quantité on va pouvoir sortir?
Eh bien, c'est très controversé. Je me suis posé la même question que vous, Sauf que du coup, bah, avec Systex, on a pris le temps de regarder dans le détail parce qu'on était assez. Alors effectivement, il y a peut-être un chiffre que vous avez peut-être en tête, notamment, c'est un chiffre qui est très 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 donné, enfin qui est très souvent fourni dans les presses françaises, quelles que soient les presses, hein, toutes sortes. C'est 34 milliards de tonnes dans la zone de Clarion-Clipperton. Alors je vais vous raconter du coup globalement. Donc on est d'accord, c'est différents types de gisements. Alors la zone de Clarion-Clipperton, en l'occurrence, alors globalement les gisements, on les trouve dans tous les océans. Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique, globalement on les trouve partout. Par contre, il est vrai que l'océan Pacifique est celui et l'océan qui dispose des réserves les plus prometteuses. Voilà. Donc pour l'instant, je vais le dire que comme ça, d'accord ? À l'intérieur, vous avez notamment les deux principaux gisements et de nodules et d'encroûtements. Pour les nodules, c'est la zone de Clarion-Clipperton qui se trouve entre le Mexique et Hawaï, donc nord de l'océan Pacifique. Et au sud-ouest de cette zone-là, donc pas très loin, vous avez la Prime Crust Zone, qui est là, du coup, c'est là, c'est l'équivalent de la zone de Clarion-Clipperton, mais pour les encroûtements, c'est vraiment le nirvana, si vous voulez.
La zone de croûte.
Oui, mais du coup, faut pas le traduire parce que sinon, ça casse tout. C'est la Prime Crust Zone, voilà. Et non, c'est si vous dites la zone de première croûte, c'est assez horrible. Donc voilà, c'est la zone où il y a les encroûtements les plus riches. Bon. Ça, ça se trouve dans l'océan Pacifique, mais sachez encore une fois qu'il y a d'autres gisements ailleurs. Et donc, du coup, alors nous, on s'est intéressé à deux choses. Si, pour avoir beaucoup de métal, il faut soit que ce soit très très riche, donc la concentration soit très élevée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit tonnage, c'est-à-dire une quantité totale de minerai faible, si vous avez une très grosse concentration. Hein, si 50% de tout le minerai, c'est du métal, c'est banco, vous n'avez pas besoin de beaucoup de tonnage. Donc, au niveau des teneurs, on s'est d'abord intéressé aux teneurs, c'est-à-dire quelle est la concentration dans les métaux qui nous intéresse dans les différents types de gisements.
Bon, combien de mètres carrés je suis obligé de moissonner pour me faire un panneau solaire ?
Et après, ça viendra après, mais il faut déjà regarder la teneur. Il faut déjà vous intéresser à la teneur, parce que si on vous dit que ce gisement est très riche, vous n'aurez pas besoin de moissonner beaucoup, forcément. Donc du coup, prenons la teneur. En fait, déjà, la grande surprise, première grande surprise que nous, on a eue, c'est que la plupart, enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu les presses ou la façon dont on en parle, mais on en parle beaucoup, souvent avec beaucoup d'emphase. Et du coup, on finirait presque par croire qu'il y a des métaux incroyables dans les fonds marins, que ce n'est pas du tout des métaux de base ou ce n'est pas du tout des métaux connus. Vous voyez un peu, il y a une espèce d'imaginaire que je trouve qui s'est un petit peu créé. Alors en fait, pas du tout, hein, c'est... des métaux on ne peut plus connus. En fait, les principaux métaux d'intérêt pour les sulfures hydrothermaux, c'est or, argent, cuivre, zinc. Connu, quoi. Et pour et les encroûtements et les nodules, c'est manganèse, nickel, cobalt, cuivre.
Concentration ?
Alors, les concentrations là-dedans, c'est soit dans la gamme des gisements terrestres, soit en dessous des gisements terrestres.
C'est des gisements terrestres. Vous parlez de la référence d'il y a 1850 où on se penchait, on ramassait des...
Non, je parle de la référence actualisée Systex août 2022.
Donc en gros, c'est...
Les concentrations sont extrêmement faibles. Donc si vous voulez des exemples encore plus précis, je peux vous donner par exemple donc, dans la zone de Clarion-Clipperton et dans la zone de la PCZ, donc dans cet ordre. Typiquement, donc ça c'est des données de Hein et al. 2013. Hein, Hein, c'est le grand pape de la géologie et des ressources marines à l'international. Du coup, en fait, Hein et al. Vous dit que donc, sur la zone de Clarion-Clipperton, donc au niveau du cobalt, alors, je suis en train de regarder mes rapports et mes notes, je vous dis ça tout de suite, c'est 0,21%. Pour la prime crust zone, c'est 0,67%. Et la concentration dans les gisements terrestres, actualisée de août 2022, c'est 0,01 à 1%. Donc vous êtes dans la gamme, globalement. Vous êtes dans la gamme, mais vous n'êtes pas énorme, quoi. Je veux dire, c'est 0,21 et 0,67, quoi. Donc, on n'est pas très au-dessus, c'est des concentrations. Voilà,
pour c'est plus facile de l'exploiter.
Ah, ça, on reviendra après.
Tirato, tranquille, ça passe tout
tirato,
seul.
Tranquille. Vous allez prendre un tuba, je vais vous amener à 4 mm de profondeur. Alors, du coup, après, voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Par contre, vous avez d'autres métaux, donc qui ne sont pas des métaux d'intérêt sensu stricto, dans le sens où ce n'est pas les premiers métaux pour lesquels on va, tels que ceux que je vous ai listés, mais c'est des métaux d'intérêt potentiel. C'est-à-dire, on espère pouvoir les trouver aussi, potentiellement. Donc là, on les a aussi regardés, et on a notamment regardé des métaux dont tout le monde parle, donc notamment, par exemple, le lithium. On parle beaucoup Donc de lithium dans les nodules polymétalliques, donc dans les nodules, on va les appeler les nodules, peu importe qu'ils soient polymétalliques, c'est des nodules, dans les nodules de la zone de Clarion-Clipperton. Alors là, du coup, la concentration en lithium, c'est 131 grammes par tonne. Les teneurs dans les salars, c'est 500 à 1500 et ça peut monter jusqu'à 15 000 dans les gisements primaires. Autant vous dire que 131, pff. Et alors les terres rares dont tout le monde parle tout le temps, et notamment dans la prime crust zone, concentration des terres rares dans la prime crust zone, donc encroûtement 0,25%, teneur des gisements mondiaux 5 à 10. L'affaire est donc réglée, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher le lithium et les terres rares dans cette affaire-là, l'affaire est donc réglée. Force est de constater que l'intérêt n'est pas au niveau de la teneur. Donc comme vous le disiez précédemment, on va donc du coup devoir compenser par une exploitation sur de grandes échelles, en fait des grandes quantités. Pourquoi je parle de grandes échelles tout de suite ? Les sulfures hydrothermaux, c'est des cheminées isolées, maximum 45 mètres, parfois elles peuvent faire 1 mètre, 2 mètres, maximum 45 mètres. Ce sont des petits amas, vous voyez, en ponctuel, donc c'est pas en fait un petit amas.
Comment ça se passe? Moi, je vois la bouche qui crache de l'eau, là où il y a les petites crevettes et mes
oui, les crevettes, crabes, oui, il y a des crevettes crabes. Et des crabes exceptionnels qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde.
Mais bon, ils vont pas nous faire chier.
Si, ils vont vous faire chier jusqu'au bout. Faites-moi confiance.
Et donc, on arrive, on prend sa petite maison, et voilà, c'est terminé. Et puis, ça se refait, non? Ça grandit comment?
Alors, les gisements les plus gros, ça, c'est des données d'ECORIS 2014, annexe A de mémoire. Les gisements les plus gros, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années pour les faire. Ça, c'est pour les sulfures hydrothermaux.
C'est tant pis la crevette, quoi.
C'est tant pis la crevette. Et comme je vous disais, tout à l'heure, on en parlait, hein, pour les nodules, c'est quelques millimètres à quelques centaines de millimètres par million d'années. Et s'agissant des encroûtements, on a un chiffre beaucoup plus précis. C'est 1 à 6 millimètres par million d'années. Et à la fin, du coup, vous avez donc une couche possible de nodules sur 12 centimètres ou vous avez sinon une croûte sur des reliefs sous-marins qui va faire entre 1 mm et 260 mm, donc 26 cm. Donc vous voyez, c'est tout petit en fait. Donc que ce soit les cheminées qui, elles, peuvent effectivement être grandes, mais qui sont plutôt disparates, vous voyez, que ce soit les nodules qui sont une couche de maximum 12 cm qu'il faut récupérer à 4000 mètres de profondeur, que ce soit les encroûtements qui sont sur des reliefs, des flancs de volcans, des monts, des machins, qui se trouvent sur des effets de serre et ça fait 26 cm, ça va être très très compliqué. Effectivement.
Ça ressemble à quoi une machine pour récolter tout ça?
Alors, c'est pas la même méthode pour... Alors, déjà, on va sur les trois, on va prendre les encroûtements. Les encroûtements, on ne sait pas faire. Les encroûtements, on ne sait pas faire parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a une couche indurée qui repose sur un substrat rocheux.
Allez, passons.
Et du coup, ça va être compliqué de les séparer. Non, mais passons. Oui et non, j'insiste quand même. Je me permets d'insister parce que ça veut dire que quand on vous parle d'encroûtement, bah c'est pas très honnête si on commence pas par vous dire je sais pas comment exploiter ce machin.
Oui, mais ça fait des beaux chiffres dans la presse.
Oui, bon, peut-être, mais bon, ça veut dire qu'il faut être honnête. On ne sait pas exploiter ces encroûtements. Le problème, c'est que vous imaginez, c'est comme une croûte de fer qu'on a mis sur de la roche. Donc à un moment donné, le seul moyen, c'est, je suis désolée, c'est la dynamite. Et du coup, dynamite à 4 mm de profondeur, ça va être compliqué. Donc, sinon, il faut des machines qui sont assez...
On sait faire. Hein.
On sait faire. Donc, voilà. Donc, du coup, pour l'instant, si vous voulez, du coup, on va laisser les encroûtements de côté. Donc, après, vous avez donc les sulfures hydrothermaux, en l'occurrence, du coup. Donc, vous avez trois machines, un auxiliary cutter ou un découpeur auxiliaire. Qui est en fait une grosse machine qui va découper grossièrement le gisement. Ensuite, vous avez le bulk cutter ou le découpeur en masse. Alors, le pauvre, en fait, c'est lui qui fait le travail de précision de la découpe de gisement. Et ensuite, vous avez le troisième, c'est le collect machine, qu'on appelle donc l'appareil de collecte, qui lui, en fait, va aspirer avant de le ramener sur la conduite de levage qui va rejoindre les vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux de soutien à la production et qui fonctionnent à longueur de temps, voilà, puisque du coup, c'est la conduite de levage du minerai qui doit être reliée entre aux environs 3-4 000 mètres de profondeur jusqu'à la surface. Bon. Donc, il faut savoir en fait que ces machines, en fait, comme je vous ai dit, moi, je pensais que c'est des robots dans la piscine. J'ai vite déchanté, puisque effectivement, je vous avais dit la dernière fois, c'est énorme. Donc, si on prend le cas de Solwara, ces trois machines-là, elles font entre 180 et 280 tonnes pour une puissance installée de 1,8 à 2,5 mégawatts. Et ces données, je les tiens de Parianos 2016. Parianos, qui est un monsieur qui a présenté en fait le projet de Solwar 1. Et donc, je me base sur ces infographies et sur ces données. Donc, du coup, vous imaginez, alors vous me dites, je sais absolument pas, moi je ne savais pas ce que c'était ces trucs-là. Donc, du coup, je ne me suis pas laissée démonter et je suis allée chercher les plus gros tombereaux dans l'industrie minière. Vous savez, ces espèces de monstres-là. Le Liberté 282, en l'occurrence, c'est l'un des plus grands et l'un des plus puissants tombereaux ou dumpers, si on prend le terme anglais, au monde. Il a été conçu pour l'industrie minière. Pour se rendre compte de qu'est-ce que j'entends par grand, ce truc fait, alors ce truc fait 14 mètres de long, il fait 8 mètres de large et 7 mètres de haut. 8,8 mètres de large de mémoire et il fait 7 mètres de haut. Donc, vous allez me dire, c'est super grand. Bah oui, c'est super grand. C'est incroyable. C'est un monstre. Le truc à charge en vide, il est à 200 tonnes en charge vide. Il peut porter jusqu'à 600 tonnes de mémoire dans sa capacité maximale. Enfin, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre. Bon. Et pour la petite histoire, vous savez, ces pneus, ils pèsent 4, ils font 4 mètres de diamètre et ils pèsent 5 tonnes. Du coup, ce Liberté 282, je regarde ses spécifications. Hauteur, largeur, longueur. Puissance installée. Et puissance installée, c'est 2,7 mégawatts. Ce qui correspond à 3650 chevaux. Et là, je compare ces spécifications avec le bulk cutter, la deuxième machine. C'est quasiment la même chose. Et on va envoyer ces machines-là à 4000 mètres de profondeur. Bon, moins, parce que les gisements de sulfure hydrothermaux sont moins profonds, mais on va dire entre eux, allez, autour de allez, on va dire 1500, entre, allez, 1500, 2500 mètres de profondeur, quoi. Bon, donc déjà, ça, c'est ça. Et après, pour les nodules, en fait, vous avez ce qu'on appelle un collecteur actif qui doit, en fait, aspirer. Donc, pareil, hein, il a une conduite, il est relié à la conduite de levage. Et il doit aspirer, en fait, les nodules. Alors, on parle d'un collecteur actif et non pas un collecteur passif, parce que les collecteurs passifs ont été essayés. C'était le râteau, en fait, ce que vous disiez. Donc c'est d'ailleurs, en fait, on envisageait de mettre une benne, vous savez, avec une ligne, quoi. Un peu comme la pêche à la ligne, on met la benne au fond et on tire, et on va bien récupérer les petits nodules qui se trouvent en fond, quoi. Au pire, on ramènera du sédiment. Alors ça marche pas du tout, on récupère beaucoup trop de sédiments, ça va pas du tout, donc on a mis en place plutôt des collecteurs actifs, où là, en fait, on va commencer à pré-traiter à l'intérieur de la petite machine. Donc on va commencer à séparer l'eau, les sédiments des nodules, quoi.
Et on les range dans des petits sacs?
Et on les range dans une benne, et cette benne, en fait, elle est aspirée en continu vers le navire de soutien à la production. Sachant que, du coup, nous, on a regardé, on a dit, mais l'énergie que ces deux trucs demandent, parce que bon, on s'entend que vous n'allez pas faire fonctionner 3650 chevaux ou un équivalent, donc c'est-à-dire en puissance installée 2,5 mégawatts pour un bulk cutter, ils sont trois, hein, mais bon, rien que pour celui du milieu, 2,5 mégawatts, on va pas le faire fonctionner avec des éoliennes qu'on va mettre sur une île flottante à l'intérieur de l'océan Pacifique. Donc il faut des hydrocarbures. Carburant nécessaire pour le système de remontée. C'est extrêmement compliqué de faire remonter une masse, même petite masse, en continu. Depuis plusieurs milliers de mètres de profondeur. Pour les nodules, c'est encore pire, hein. La plupart des gisements, les grandes surfaces minéralisées.
Vous parlez d'une communauté qui a toujours essayé d'empiler les pailles et d'aspirer du yaourt. On sait tous qu'après trois pailles, on devient tout rouge.
Voilà, c'est le même principe. Du coup, voilà, les principaux gisements de nodules, ils se situent entre 4100 et 4200 mètres de profondeur. Donc, même remonter des, entre guillemets, petites masses, mais c'est pas du tout des petites masses, hein, qu'on va remonter. Il faut les remonter là-haut. Du coup, c'est ça qui demande
énormément. L'éjection des sédiments, c'est sur le bateau ou c'est sous l'eau?
Alors, du coup, actuellement, ce qui est dit, c'est que, en tous les cas, sur le pré-traitement, parce que dans tous les cas, quel que soit le type de gisement, il faut faire un pré-traitement par déshydratation. Parce que du coup, vous avez beaucoup d'eau, de l'eau marine, et puis vous avez aussi des sédiments qu'il faut déjà séparer, quitte les sulfures hydrothermaux, quitte les encroûtements, quitte les nodules, du sable, de la vase, des autres petits cailloux, etc. Et ça, du coup, alors l'idée, notamment, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, notamment Okromovic et Tal 2021, qui fait des propositions, du coup, Agarwal et Tal aussi en parle de mémoire, hein, dans 2012. En fait, ils font des propositions de pré-traitement directement au fond, donc directement dans les machines. C'est-à-dire les machines qui collectent font le pré-traitement par déshydratation. C'est comme ça que ça. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on remonte la masse en entier. Alors effectivement, ça demande plus d'hydrocarbures, hein, c'est plus compliqué. Mais par contre, du coup, vous pouvez faire le traitement sur le bateau. Voilà, deux possibilités. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le pré-traitement, ce sera fait en mer. Ce qui fait que si c'est au fond, eh ben, les rejets liés à cette séparation se feront en mer, au fond de l'eau. Si c'est sur le bateau, on peut mettre en place ce qu'on appelle une conduite de réinjection, où en fait, on va réintroduire, alors de préférence au-delà de 1000 mètres de profondeur, en tous les cas, c'est ce que les chercheurs expliquent en disant, s'il vous plaît, essayez de pas mettre ça trop en surface, mais de toute façon, ça change rien, les dommages vont être similaires, réintroduire en fait les matériaux au fond. Donc plutôt vers 1000 mètres de profondeur, donc conduite de réinjection. Et donc ça c'est que la partie, vous les avez juste collectées, mais la question que vous pourriez légitimement vous poser, c'est de me dire, eh ben du coup écoutez, là pour l'instant moi j'ai juste des encroûtements, j'ai juste des sulfures hydrotamaux, j'ai des amas, mais là j'ai toujours pas de métal, ça fait pas des voitures notre affaire. Donc si je veux faire des voitures ou si je veux faire, j'en sais rien moi, des machines, j'ai quand même besoin d'étapes ultérieures. Et alors ça, c'est complètement passé sous silence. C'est drôle. Les gens, ils parlent toujours de la collecte, de comment on va au fond, du fait que c'est difficile, qu'il y a 600 bars, alors que la pression atmosphérique, c'est 1 bar, qu'il fait 1,5 degré, donc il fait très très froid, machin. Tout le monde parle de l'exploitation, et personne se dit, pour l'instant, je n'ai ramené sur le bateau que des nodules.
Des cailloux, quoi.
J'ai que des cailloux, là. Donc là, on n'y est toujours pas. Et vous vous souvenez cette histoire que je vous racontais sur les nodules, de ces tout petits grains finement imbriqués, etc. Vous croyez que le métal, ça va être facile à le récupérer, cette échelle-là ?
Un petit marteau et hop.
Un petit marteau. Et les petits doigts, ça marche pas non plus. Et non. Non, 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 non. Et donc, du coup, eh ben, en fait, il n'y a pas d'équivalent terrestre de ces minerais. Il n'y a pas d'équivalent.
Pour le traiter ?
Pour le traiter. En fait, en type, c'est-à-dire en termes de texture, c'est tellement fin. Vous imaginez, en fait, c'est des grains nanométriques, on a dit millionièmes de millimètres, qui sont collés les uns aux autres, finement imbriqués, et on a un adsorbé. Donc on a collé des métaux sous forme d'atomes ou de molécules. Donc en l'occurrence sous forme d'ions, c'est-à-dire des atomes ou des molécules chargées. C'est ça qui est à l'intérieur comme métal, c'est pour ça qu'on va dans les fonds marins. Quand moi j'ai découvert ça, mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette imposture? J'ai vérifié plusieurs fois Einetal 2021, Einetal 2013, Aine Okromovic 2014, j'ai vérifié toutes mes publications Okromovic et Tal 2021. Je dis mais c'est quand même une blague. Eh ben non. C'est pour ça qu'on va au fond, c'est pour aller récupérer des métaux qui sont sous forme d'atomes ou de molécules chargées collées à des grains d'oxyde de fer ou d'oxyde de manganèse qui sont eux-mêmes de taille nanométrique.
Il n'y a même pas une petite boulette de cuivre qui traîne.
rien.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30. Vous êtes à écoute de l'actualité des luttes. Et nous terminons cette émission dans le cadre de la question « Quel avenir pour les océans ?» avec cette question « Comment la surpêche industrielle tue l'environnement et la pêche artisanale ?»
Les aires marines protégées ne protègent en aucun cas de la pêche industrielle.
C'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a plus rien derrière.
On perturbe finalement tout le fonctionnement de l'écosystème.
What you said?
Encore.
Ok.
Dans ma tête, je suis toujours pêcheur. Ça, c'est le surnom que j'ai à avoir. Tout le monde le sait. Je pourrais, là, je m'écouterais, je rachète un bateau, j'y retourne. Mais aller pêcher où pour aller pêcher quoi? C'est plus des pêcheurs qui sont aux commandes de ça, c'est des financiers. Eux, les bateaux de 140 mètres, peut faire un début, j'y sorte. C'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. Un bateau à coquilles, c'est 2 heures tous les 3 jours en pêche. Eux, c'est 24 sur 24. Ils passent là-dedans, ils pêchent pas les coquilles, mais ils foutent un bordel dans le fond. Il n'y a plus rien derrière. Moi, j'ai commencé, il devait y avoir entre 40 et 50 bateaux. Maintenant, je sais même pas s'ils sont une dizaine. Alors ici, c'est les ventes directes de poissons, du bateau au consommateur, on va dire. C'est le dernier endroit à Dakarque où tu trouves du poisson pêché par les Dakarquois. Avant, il y avait une liste d'attente phénoménale pour avoir un coach ici. Et puis bah, maintenant, c'est la mairie qui pleure pour les louer, mais il n'y a plus assez de bateaux. Tout ça, c'est vide. Et ça, c'est un deuxième petit chalutier qui, pareil, c'est avant, on faisait que de la crevette. Et comme il n'y avait plus assez de crevettes pour la taille de son bateau,
il a réussi à se reconvertir dans la coquille. S'il n'y avait pas les coquilles, il aurait fait faillite comme tous les autres, quoi.
J'ai commencé mousse, on m'a dit tu vas galérer à te matelot parce qu'il faut aller à l'école, j'ai réussi. On m'a dit tu seras jamais patron parce que t'as des lunettes, j'ai réussi. On m'a dit tu seras jamais propriétaire de ton bateau, j'ai réussi à l'avoir. J'étais rendu que je travaillais 450 casiers tout seul, plus 7000 mètres à trémaille, ça n'allait pas. J'ai repris un bateau français en commandement à côté de ça pour faire un complément de salaire, je réinjectais l'argent dedans. Ça allait toujours pas. J'ai pris un troisième boulot à côté pour dire de payer le loyer et manger. Ça n'allait toujours pas. C'était sauter d'un bateau, courir sur l'autre, se nourrir de yop et de paquets de chips parce que c'était le seul truc que je pouvais manger pendant la route. Ça devenait du no life. J'ai stoppé il y a 3 ans, j'ai vendu mon bateau et moi je suis parti à la pêche à coquille. J'ai dit bah là il y a de l'argent qui rentre. C'est des salaires très confortables. C'était un bon compromis plutôt que de se battre à pêcher 7-8 kilos de sol tous les jours et puis pas payer mes traites et encore moins manger, quoi. Malheureusement, j'y ai laissé une main. J'ai eu la main broyée, deux doigts amputés. Là, j'ai dit, c'est bon, c'est un signe de là-haut, il faut stopper, quoi. Et du coup, je me suis reconverti. J'ai eu la chance de rentrer sur un ferry. Je suis parti au ferry et ça fait 3 ans que j'y suis, quoi. Douf calé. À longueur de journée pendant 14 jours. Et c'est très bien.
Alors là, on est dans l'aire marine protégée du banc des Flandres, au large de Dunkerque, relativement en pleine mer. Les aires marines protégées ne protègent en aucun cas de la pêche industrielle. Et c'est ça qu'on veut montrer avec cette expédition. À chaque fois qu'on sort, on voit des navires de pêche, soit des chalutiers géants, pouvant aller jusqu'à 120 mètres, qui pêchent en pleine aire marine protégée, ou tout un tas de navires un peu plus petits, mais en très grand nombre. Donc les très gros chalutiers, ce qu'on sait, c'est qu'ils peuvent pêcher jusqu'à 400 tonnes par jour et jusqu'à 40 tonnes par coup de chalut. Alors ça, c'est quand ils font, comme ils disent, un bon coup de pêche, ça peut être beaucoup moins. Mais 40 tonnes, c'est largement plus d'une année de travail pour un pêcheur artisan, pour un petit bateau qui opère de manière côtière et avec des techniques de pêche beaucoup plus durables, quoi. Alors en fait, on va appeler l'autre navire. Peut-être qui on est là depuis un petit moment.
Klaas Adriana, dit is de witness over. Ja, voor jullie informatie, we zijn hier om visserijactiviteiten te documenteren. We hebben een inflatable in het water en we nemen wat foto's over.
Op donderen.
Oké, dat was clear.
Wat je zei?
Fuck off.
Oké. Okay. Just fuck off. Oké. Okay. Alors le bateau qu'on a là, c'est un chalutier qui fait du chalutage de fond. C'est un navire qui fait 44 mètres de long. Alors chalut de fond, ça va plutôt être des espèces de poissons plats, notamment la sole. Et ce qu'on a bien pu voir au moment de la levée des filets, c'est ces espèces de lames qui accrochent le fond pour pouvoir du coup racler les poissons qui sont dans les premiers centimètres du sédiment. Et c'est clairement établi scientifiquement que toutes ces pêches qui touchent le fond ont un impact sur l'habitat, sur l'écosystème et sur les espèces ciblées.
Parfait. Alors là, au-dessus, on a le hockey senior. Et là, il a l'air d'être en train de pêcher en chalutage de fond.
Hockey senior, dit is de witness, over.
Sierra 2, 20,
JCK 69, call 3. He basically told us that because we are taking pictures and video, that he will shoot it on tape. And that if he sees any pictures in the media of a ship, that we have a problem. That's basically what he told us. But we have a right to protest at sea.
Yes. So. La cour d'appel des Pays-Bas a confirmé, c'était il y a un peu plus d'un mois, le fait qu'on avait le droit de protester en mer contre des activités, y compris en interférant de manière, en respectant évidemment les règles de sécurité. Donc ce droit s'applique pleinement. D'une certaine manière, il y a à la fois le côté une industrie qui scie la branche sur laquelle elle est assise et dont l'avenir est vraiment questionnable. On pense qu'il faut une vraie transition et qu'il faut conserver les aires protégées pour justement redonner finalement de la ressource.
Je pense que le plus gros problème des aires marines protégées aujourd'hui en France, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas protégées. 44% des eaux de la métropole sont en aires marines protégées. Ils sont, il faut bien le dire, des aires marines de papier dans lesquelles les mesures de protection sont extrêmement faibles.
Plus on protège une zone, plus la biomasse va augmenter, le nombre de poissons, et plus il va y avoir du poisson à pêcher en dehors de l'aire marine protégée.
Et en réalité, aujourd'hui, il y en a moins de 0,1% dans lesquels il y a une protection réelle stricte. Et protection stricte veut dire cette fois-ci interdiction de toute activité de pêche ou de toute activité industrielle extractive.
Bah, le problème, c'est qu'ils pêchent du petit poisson, qui va nourrir le plus gros poisson, qui vient nourrir ce que nous, on pêchait avant. S'il n'y a plus la base, il n'y a plus la faim. Donc, ils impactent une partie de la chaîne alimentaire. Nous, on est à l'autre bout de la chaîne alimentaire, entre guillemets. Bah, nous, on est directement impactés.
Ce qu'on demande, c'est, d'une part, que le chalutage de fond ou la scène danoise, donc ces techniques extrêmement destructrices sur l'habitat, soient interdites dans toutes les aires marines protégées françaises. Et on demande aussi que la bande côtière soit réservée aux pêcheurs artisans.
Qui dégage de la bande côtière ? La bande côtière n'est pas faite pour des bateaux comme ça. C'est comme si, demain, on dit bah, les poids lourds, pour faciliter la circulation, ils vont rouler sur les pistes cyclables. Bah, ces bateaux-là, c'est la même chose. C'est des poids lourds sur une piste cyclable.
Ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.